Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette demi-heure à soi. Suspendre le temps pour se connecter à nos émotions. Oublier que dans d'autres espaces, les artistes, les créateurs ont perdu leur voix. Cette semaine encore, nous défierons les esprits chagrins et les prévisions alarmistes. Cette semaine, Vincent Lorger se mesure à la taille de mon âme. Guillaume nous fait découvrir le groupe Tissiphone. Gaël se plonge avec délectation dans l'univers du photographe Elliot Erwitt. Et Thomas nous entraînera, grâce à sa voix, dans le sillage de Jean Giono. Et nous terminerons par nos Gédéons, évidemment. Nous débutons avec un échange avec l'artiste Vincent Lorger. Il est l'invité de la galerie La Taille de mon âme qui inaugure un nouveau lieu sur le bas des pentes de la Croix-Rousse, 4 rue Saint-Claude dans le premier. Pour cette première carte blanche, l'artiste déploie toute la palette de son talent avec une grande diversité de médiums. On écoute notre échange le jour du vernissage.
J'ai la sensation en fait que vous aimez la matière.
Oui, c'est vrai, comme vous le dites, il y a une très grande diversité ce soir dans l'exposition. Il y a des tapis, aussi des céramiques. Dans cette matière, je préfère plus parler de couleur même. J'aime la couleur.
Donc finalement, la matière vous aide à transcender la couleur.
Oui, la couleur me permet, en quelque sorte, j'utilise la matière, le volume, pour utiliser des couleurs et en jouer avec et créer des paysages ou des animaux. Voilà, tout un lexique face à l'homme et la nature. Voilà.
Alors l'homme et la nature, mais aussi l'histoire, Vincent Lorger. Je crois que vous vous intéressez à l'histoire. D'ailleurs, on est face à une pièce qui est tout à fait étonnante, hein, qui nous fait penser à une rosace de cathédrale. Racontez-nous un peu l'histoire de cette pièce.
Oui, cette histoire est liée à une amie qui... très jeune, était sur le parvis de Notre-Dame et qui, lorsqu'elle a vu Notre-Dame brûler, se souvenait de cette anecdote que petite, sur le parvis de Notre-Dame, elle dessinait avec son vélo la rosace. Ça m'a tout de suite évoqué cette idée de faire cette œuvre qui est une rosace en terre cuite, non émaillé, que j'ai dessiné avec un vélo.
Quand on s'approche, on voit des stries et on se demande en fait ce que c'est. Mais on ne pense pas tout de suite à des pneus. On voit en fait que cette rosace, elle est coupée en plusieurs morceaux. Est-ce que ça évoque quelque chose de particulier pour vous ?
L'idée qu'elle soit décomposée comme ça, pour moi, c'est une sorte de construction en elle-même. C'est, voilà, quand elles sont bout à bout, elles construisent... une rosace, et pour moi ça me rappelle aussi les pierres, les constructions monumentales, et donc voilà. Et donc il y a aussi cette finesse voilà, du strie, du pneu qui fait que la rosace est créée grâce à cela.
Alors, la référence à l'histoire, on la retrouve aussi à travers les personnages que vous évoquez. Il y a un buste qui peut évoquer une sculpture antique. Elle n'a pas de tête, un peu comme une sculpture qu'on aurait sortie de l'eau, par exemple, ou qu'on aurait trouvée en archéologie. Est-ce que c'est les éléments en référence à l'archéologie, en fait, vous intéresse ?
Alors, il est vrai que cette question m'intéresse. Donc déjà, la rosace, on pourrait croire que c'est quelque chose qui sort, qu'on a sorti de quelque part, de sous le sable. Et ce buste ressemble un peu à un rocher qui a été immergé et sorti ensuite. Et c'est vrai que l'archéologie m'intéresse parce qu'on peut le voir aussi sur un tapis qui se trouve en ce moment accroché au mur. C'est une représentation d'une image que j'ai vue qui était un coquillage qu'on a trouvé pendant la période néolithique. Il était percé de 3 trous. Ça représentait 2 yeux et une bouche. Et je trouvais cette image, cet artefact de cette coquille percée ça m'a beaucoup marqué. Donc j'ai voulu aussi réutiliser cette image et le faire en tapis.
Alors c'est très coloré. Et moi, quand je suis rentrée, je vais vous dire, j'ai pensé immédiatement à une tête de mort, c'est-à-dire une vanité.
Ah oui, tout à fait. Quand je parle d'artefact, je pense que cette coquille, elle était faite pour appeler la nature, lui demander quelque chose. Donc peut-être que cette tête de mort aussi, elle devait demander à la nature je ne sais quoi, mais je comprends cette idée de tête de mort.
Vincent Lorger, vous faites aussi des objets qui sont des objets, allez, on va dire, utilitaires. Un petit gobelet, des assiettes, des éléments peut-être sur lesquels on peut s'asseoir. Est-ce que cette idée de l'art et du design, c'est aussi quelque chose en fait qui fait partie vraiment de votre corpus?
J'ai appris avec des amis potiers qui ont 30 ans d'expérience et voyant leur assiette, je me disais que c'était vraiment des œuvres d'art en elles-mêmes. Ils dessinent des animaux et donc j'ai voulu suivre ce parcours en faisant ça de mon côté aussi. Et donc c'est pour ça que je présente aussi des pièces où des animaux sont représentés sur des assiettes. Et je pense que l'utilitaire doit être aussi agréable visuellement. Ça ne doit pas être une assiette blanche, je précise, comme IKEA. Donc voilà, je préfère... Quand j'ai commencé à faire des assiettes, je trouvais ça très important d'avoir cette matière, ce visuel en plus. Je pense que c'est très agréable au quotidien, même pour faire la vaisselle.
Oui, effectivement, on s'ennuie moins, surtout quand elles sont toutes différentes. Vincent Lorger, vous avez fait les Beaux-Arts de Grenoble il y a une petite dizaine d'années, allez, on va dire ça comme ça. Depuis, vous exposez, j'imagine, et votre carrière s'implante petit à petit, etc. Vous me disiez effectivement qu'il était là aussi difficile de durer aussi dans ces métiers. Comment on fait aujourd'hui pour être un artiste plasticien et de gagner en reconnaissance? Est-ce que l'autopromotion, par exemple, est quelque chose en fait, que vous avez l'habitude de faire sur Instagram, par exemple, hein? Je sais que beaucoup d'artistes le font, même si ce n'est pas toujours simple.
Il est vrai que ça fait partie du jeu, Instagram. J'ai exposé il y a quelques années dans une galerie, et c'est cette galerie qui m'a dit de m'inscrire sur Instagram. Donc depuis cette exposition dans cette galerie, je suis sur Instagram, et donc il est vrai que ça fait partie du jeu de faire son autopromotion. Mais je reste sur l'idée qu'il est très important de travailler dans son atelier et de croire en ce qu'on fait et de ne rien attendre. Donc de produire et d'amonceler une production. Et si un jour quelqu'un pousse votre porte de votre atelier, il sera sans doute ravi de voir tout ce que vous avez produit. Mais voilà, ne rien attendre, faire.
La reconnaissance passe forcément par l'institution, c'est-à-dire par exemple rentrer dans des collections, des FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain par exemple, ou des musées, ou être exposé dans un musée, ou finalement la carte blanche qu'on vous propose aujourd'hui ici à la taille de mon âme est aussi un élément de visibilité et un élément de reconnaissance.
Ah oui, donc il faut accepter d'être exposé dans des galeries. Moi, je suis pour, au contraire, c'est encore plus proche des passants qu'un musée. La galerie est vraiment un espace qu'on peut voir depuis la rue, parce que la galerie a une vitrine, tandis que le musée est moins accessible. Certaines personnes se disent que c'est plus difficile. Donc, je suis pour exposer soit dans les galeries ou dans les musées. Et après... le public est soit présent ou ne l'est pas, mais c'est toujours agréable de montrer son travail et d'avoir un retour, avoir un échange avec le public.
Alors ici, on va se déplacer un petit peu parce que il y a beaucoup de choses. C'est pour ça en fait que j'évoquais l'archéologie, parce que quand on voit des vases et notamment la forme de certains vases, quand on voit le buste par exemple, ou encore des éléments qui évoquent un peu la mythologie. Parce que y a des personnages ou des animaux, vous l'avez dit, mais qui sont des animaux un peu étranges. Hein, on n'est pas forcément dans la dimension figurative de la représentation. On est plutôt dans l'évocation.
Il est vrai que j'évoque. Voilà, c'est l'idée. Peut-être que cette exposition aurait pu s'appeler Read the Room, c'est-à-dire regarder ce qui se passe dans la pièce. Je ne vous dis rien et acceptez, prenez la chose. Comme vous le souhaitez. Là, on voit au sol un tapis qui est pour moi un animal, mais tout à l'heure, vous m'avez évoqué le fait que vous voyez un paysage. Donc, c'est vrai que si vous voyez un paysage, je ne vous arrête pas là-dessus. Et voilà, pour moi, c'est un animal et pour vous, un paysage, et je suis ravi.
C'est vrai qu'on disait aussi un petit peu le test de Rochard, c'est-à-dire d'une tache de couleur ou d'un élément qui pourrait être extrêmement figuratif pour certaines personnes, ne l'est pas du tout pour d'autres. On frôle toujours l'abstraction un petit peu avec vous, c'est-à-dire que c'est à la fois concret et à la fois abstrait. Des taches de couleurs, des éléments en fait qui se rassemblent et on peut voir plusieurs choses dans une image.
Bah, comme je le disais tout à l'heure, pour moi je ne vois pas de l'abstraction. Pour moi tout est figuratif avec, il est vrai, cette couleur qui pour moi est très importante, mais il me permet de créer cette figuration. Et pour certaines personnes, là je vois un carreau en face de moi, pour moi ça représente deux chiens, dont un qui tire la langue, mais certaines personnes ne verront pas ces deux animaux et verront juste une détache. Et voilà, rien n'est arrêté, il faut juste savoir apprécier et prendre l'image telle qu'elle est.
Vous exposez ici jusqu'au 30 novembre, c'est 4 rue Saint-Claude, bah, c'est sur les pentes de la Croix-Rousse. Hein. Vous êtes très bien placé ici, on ne pourra pas se tromper hein, parce que la galerie elle est verte et rouge, c'est absolument magnifique. C'est complètement en adéquation avec vos pièces. Hein. C'est vrai qu'on parlait de couleurs et même la façade de la galerie en fait est verte et rouge.
C'est vrai, j'ai même l'impression que ça ressemble à un restaurant et donc venez, il y a des assiettes, des vases et des plats à découvrir dans l'espace, donc vous êtes les bienvenus jusqu'au 30 novembre.
Merci beaucoup, c'était un plaisir de bavarder avec vous Vincent Lorger. Je rappelle que votre exposition c'est « À la taille de mon âme » jusqu'au 30 novembre. Merci.
Merci.
Vous pouvez rencontrer l'artiste le jeudi 9 novembre à partir de 18h, mais aussi le jeudi 30 novembre pour le finissage. Son travail ne vous laissera pas insensible et la belle galerie « La taille de mon âme » non plus. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lataillemonâme.fr. Bonjour Guillaume, cette semaine tu nous proposes de découvrir l'univers du groupe Tissiphone. Leur troisième album, Riot Puppet, fait grosse impression dès sa première écoute. Merci d'être sur notre plateau cette semaine.
Bonjour Tissiphone, en fait on a une partie du groupe puisque vous êtes un trio, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord. Et puis l'album n'est pas encore sorti puisqu'il sort qu'en février. Donc pour l'instant, vous avez deux titres qui sont en écoute sur YouTube. Alors peut-être d'abord, moi, comme je le disais en aparté tout à l'heure, la première fois que je vous ai vu, c'était en 2016, en première partie de Motorama au Sonic. Donc ça remonte à loin. Donc ça veut dire que vous êtes déjà un vieux groupe. Mais peut-être que pour les gens qui ne vous connaissent pas, peut-être se présenter, puis comment vous êtes rencontrés tous les trois. Parce que vous faites quand même une musique. Et moi, c'est ça que j'apprécie. J'aime pas mettre les gens dans des cases. Et en fait, vous êtes vraiment incasable.
Effectivement, je pense que ça peut être pris comme un compliment. Bah, ça fait 10 ans maintenant en fait qu'on existe, en tout cas qu'on a décidé de se réunir pour faire Tissiphone. À la base, bah, c'est la rencontre de nous trois, du trio. On s'est rencontrés au cours de l'année... on s'est rencontrés d'abord, moi et Léonard, on s'est rencontrés dans une école de théâtre parce qu'on est comédiens tous les deux. Et lui habitait avec Suzanne, donc, qui est la bassiste. Et du coup, on s'est liés d'amitié. On a écouté plein de musique ensemble et on a décidé de faire ce groupe.
Oui, mais alors comment on passe du théâtre, enfin de la comédie, à un groupe de musique? Il faut quand même un petit peu travailler les instruments.
Ces deux personnes ont une formation musicale assez poussée parce qu'ils viennent d'une formation classique. Ils sont violonistes, tous les deux. Donc ils se sont rencontrés au cours de leurs études... au conservatoire. Et moi, je n'ai pas de formation musicale, mais on affectionne tous les trois la musique, l'expression musicale. Il y avait une batterie qui traînait dans la chambre de Léo. Lui faisait de la guitare, Suzanne voulait faire de la basse. Moi, je voulais taper et chanter. Du coup, au début, c'était vraiment un trip tous les trois, après avoir écouté Pornographie des Cure en boucle et regardé Twin Peaks. C'était l'hiver et on avait juste envie de faire ça. Mais au début, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément une ambition. C'était un peu... ça partait vraiment d'un élan et d'une envie. Et on l'a fait. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit que ça pouvait prendre plus de place. Et puis qu'on avait envie d'en faire vraiment... En tout cas, on avait envie de faire des concerts, quoi.
Ce nom qui est quand même particulier, Tissiphone, puisque bon, moi, j'ai fait quelques études d'histoire. Et donc, effectivement... Tissiphone, c'est une des Erinies, donc une des trois divinités, dont celle-ci est particulière puisque c'est celle qui doit venger, en fait, qui doit quand on a commis quelque chose de terrible, elles doivent se venger. Hein. Enfin, elles doivent venger. Hein.
Bah, en fait, elles avaient la fonction, on peut dire, de justice. Elles étaient trois. Il y a Mégère, Alecto et Tissiphone. Prennent en chasse les personnes qui ont mal agi, en fait. Donc elles avaient, dans ce sens-là, cette fonction un petit peu de justice, de faire justice. Mais elles étaient détestées des dieux et redoutées des mortels. Donc
d'ailleurs, pour les éloigner, on les appelait plutôt les bienveillantes, en fait.
Oui. Voilà, c'est ça qui est... voilà, ce qui okay. peut être l'ambivalence, hein, voilà. Ça dépend de quel côté on se place.
Alors, vous aussi, dans le groupe, il y a une forme d'ambivalence, parce que moi, j'ai relevé deux choses qui me semblent vraiment intéressantes. D'un côté, vous chantez en anglais et en français, mais parfois dans le même titre, dans une seule chanson, et non pas un titre en français, un titre en anglais. Et puis aussi, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être c'est lié à la naissance du groupe, la percussion a un rôle très très important.
Là, peut-être c'est un peu moins le cas, mais quand on a commencé, en fait, il y avait vraiment cette idée de diviser la batterie. Donc au début, c'était vraiment Suzanne et moi qui faisions des rythmes, combinaient en fait nos rythmes qui en créaient un au final. Donc c'est vrai que c'était un peu le côté original du groupe. Mais même Léo d'ailleurs, au début, avait aussi un charlet. Et effectivement, ça a donné une patte particulière. On a beaucoup travaillé quand même avant de prétendre à pouvoir faire des concerts et de la scène, parce que en fait, on a appris un peu comme ça, quoi. Donc cette dimension un peu punk, DIY, de vraiment apprendre par nous-mêmes, juste avec un métronome et puis l'élan, la portée des chansons. Et donc il y a cette dimension rythmique, qui est assez importante. C'est vrai.
Alors tout à l'heure, tu au jeu des pas des références, mais tu as cité Pornographie des Cures et puis et Twin Peaks. C'est vrai que là, un des morceaux récents qui est sorti, c'est le morceau Sick. Et moi, ça me fait évidemment penser à Twin Peaks, évidemment.
Ouais.
Il y a ce côté un peu
synthés,
les synthés un peu à la Angelo Badalamenti là, qui sont vraiment très très forts. Mm. Comme un mantra là qui revient, comme ça. Et alors, vous êtes malade ? De quoi, en fait, vous êtes malade ?
Malade, non. Cette chanson, c'est moi qui l'ai écrite. J'ai des élans d'écriture qui peuvent être associés à une dimension poétique, c'est-à-dire que parfois, j'écris avec par dessin, enfin, je sais ce que je veux exprimer, on va dire. Et puis parfois, je me laisse, prendre par les mots et leur poétique. Et juste, effectivement, je sais pas, j'avais pas forcément besoin ou envie de parler de quelque chose de précis, en fait. On est malade du monde, mais le monde est malade aussi, de toute façon. Et puis, je crois que c'est assez clair en ce moment avec tout ce qui se passe. Mais,
ce titre, il est en anglais. Et puis le dernier qui est sorti, donc, pendant 1000 ans, là, il est complètement français. Et celui-là, il est complètement différent. Alors là, c'est un autre univers. Mmh. Moi, je dirais presque qu'il est un peu hip-hop, un peu sur le...
Ouais,
c'est un peu du parler-chanté.
Pendant 1000 ans, c'est vrai que là, Léo a tout un couplet en français qui, effectivement, est plutôt rappé. Avec ce nouvel album, en fait, on a, pour le coup, rythmiquement et au niveau de certaines inspirations, on est allé vers des choses qu'on pourrait qualifier un peu de trap, des rythmiques un peu trap, parce que du coup, il y a cette boîte à rythme-là qui est un peu plus utilisée maintenant.
On va écouter le morceau, ça serait Pendant 1000 ans.
À l'écart des appels, du sable plein les yeux, de l'eau jusqu'au cou. Pendant 1000 ans, à l'écart des appels, du sable plein les yeux, de l'eau jusqu'au cou. Pendant 1000 ans, à l'écart des appels, du sable plein les yeux, de l'eau jusqu'au cou. Pendant 1000 ans. Livre-toi à ma rage. Je dois porter plus loin l'horreur et le ravage, sans baigner dans mon sang à nourrir ma colère. Je suis ce monstre affreux qui tranche les jours si chers. Laisse-moi respirer. C'est en vain que tu gémis, c'est en vain que tu trahis, c'est en vain que tu ris. Les plaintes des malheureux irritent la barbarie. Branche ton réveil, une heure avant ta mort. Tremble le rendez-vous d'une rose et d'une hache. L'enfant qui pleure à la fête ne fait pas tâche. À l'écart des appels, du sable plein les yeux, de l'eau jusqu'au cou. Pendant 1000 ans.
Pendant 1000 ans.
désamorce. Trois gouttes de sang arrachent l'écorce. Dans ta pupille explose, un mental se désamorce. Trois gouttes de sang arrachent l'écorce. Dans ta pupille explose, un mental se désamorce.
D'écouter Pendant mille ans de Tisiphone, qui sera sur l'album. Tu peux rappeler le titre de l'album?
L'album sera Riot Puppets.
Riot Puppets, qui sortira donc sur un label très indépendant, on peut peut-être le citer.
Oui, bien sûr, Icy Cold.
Voilà, tout à fait. Et donc, on peut louer leur travail, parce que quand on va voir le nombre d'albums qui sortent, c'est impressionnant. Et moi, je suis très honnête, je crois que je connais 10% ou 15% des artistes qui sont sur le label. Ouais. Et ça donne envie d'écouter, en fait. Voilà. Une dernière chose, vous avez fait une reprise il y a longtemps d'Alain Bashung, il me semble.
Alcaline.
C'est quand même. Voilà, Alcaline, c'est quand même. Alors, déjà, Alcaline dans la discographie d'Alain Bashung, c'est très particulier. Mais alors pourquoi ce choix?
Donc ça, c'était une commande. En fait, on avait une liste de chansons. Effectivement, il y avait Alcaline. Bah nous, on aime beaucoup Alain Bashung. On l'a beaucoup écouté et ça fait partie des chanteurs français qu'on affectionne beaucoup parce que assez rock. Et Alcaline, on avait vachement envie de la reprendre.
Est-ce que vous avez des concerts de prévus?
Très prochainement, pas vraiment. C'est en cours. On va faire une tournée en février. On va faire notre release party en fait en février au Sonic le 22 février. Ouais.
Et ben voilà, on annonce ça, donc le Sonic le 22 février, Tisiphone. On te remercie et puis on attend l'album avec impatience donc en février. Merci à Tisiphone, un trio.
Gaëlle, cette semaine, tu nous entraînes derrière l'objectif du photographe Elliot Erwitt. Son œuvre foisonnante est à découvrir à la Sucrière. On connaît ton intérêt pour ce médium. Qu'as-tu pensé de cette exposition qui a déjà été montrée à Paris?
Alors, cette exposition est assez incroyable. Hein. Sachez qu'Elliot Erwitt a 96 ans. Imaginez l'ampleur de la carrière de ce photographe américain, né en 1928 de parents russes à Paris. Après une enfance passée à Milan, la famille émigre aux États-Unis en 1939, où Elliot Erwitt étudie la photographie et le cinéma. À New York, il rencontre Edward Station, fameux photographe à l'initiative de la plus grande exposition photographique du monde, The Family of Man, programmée au MoMA en 1955. Elliot Erwitt participera avec 4 photos. Il rencontre aussi Roy Stryker, l'ancien chef de la Farm Security Administration, et le grand photoreporteur Robert Capa, qui l'invite à rejoindre Magnum Photo. Elliot Erwitt devient membre en 1953 et en sera aussi le président à la fin des années 60. La rétrospective à la Sucrière offre, avec 220 photos, un panorama organisé autour de 2 grandes sections. L'une concerne ses travaux plus personnels, en noir et blanc, organisés autour de 8 thèmes, entre les sexes, enfants, plages, abstractions, villes, chiens, concernant les femmes et observation de musée. La deuxième section, intitulée « Color » avec un K, fait référence aux travaux en couleur de l'artiste, photos parfois moins connues et émanant de commandes. Chaque thématique, sachez que chacune a fait l'objet d'une publication, s'ouvre avec un autoportrait humoristique d'Elliot Erwitt à l'image de son goût pour le jeu et l'autodérision. Celui de 1988, où le sérieux de son visage rivalise avec une perruque aux boucles bien brochées, est désopilant. Qu'est-ce que le style d'Elliot Erwitt ? C'est un regard singulier, à la fois sarcastique et empreint d'une grande tendresse. Le photographe humaniste clown jongle entre ironie bienveillante et sensibilité. Je le cite, « Il vous suffit de vous soucier de ce qui vous entoure et de vous soucier de l'humanité et de la comédie humaine. » Souvent humoristique et révélatrice d'un moment de la providence, ses prises de vue immortalisent des scènes de rue, le petit théâtre cocasse et intime de la vie, les chiens. Le sol de l'exposition regorge d'ailleurs de multiples empreintes de coussinets de pattes de chien. Mais aussi le grand reportage, il est le premier à photographier les missiles soviétiques en 1957 à Moscou. La mode, la publicité et des personnalités connues, Marilyn Monroe, Alfred Hitchcock, Jackie Kennedy ou encore Charles de Gaulle et Che Guevara. La photo de Richard Nixon pointant son index sur Nikita Khrushchev en 1959 à la foire américaine de Moscou est significative sur comment une photo peut mentir. Pour donner à Richard Nixon l'image d'un homme fort face aux soviétiques pendant la guerre froide, la photo a été reprise à des fins de propagande par l'équipe de Richard Nixon. L'index pointé sur Nikita Khrushchev n'est donc ni accusateur, ni le signe d'une altercation diplomatique, mais juste un mouvement né d'une discussion de cuisine entre les deux hommes. Le débat étant, entre la viande rouge américaine et le chou rouge soviétique, qui gagne ? Au fil du parcours, vous allez reconnaître d'iconiques prises de vue de l'artiste. Exemple de la photo prise pour Life en 1956, le reflet dans un rétroviseur d'un couple qui s'embrasse sur une plage en Californie. Pas de mise en scène, Elliot Erwitt connaissait les personnes. Aujourd'hui célèbre, cette photo longtemps oubliée a été redécouverte par l'artiste en 1988 en triant simplement des planches contact. Autre fameuse photo, mais cette fois mise en scène, sur un fond brumeux révélant la tour Eiffel, un homme tenant un parapluie saute en quasi grand écart devant un couple enlacé. Marquant le 100e anniversaire de la tour Eiffel en 1989, cette photo n'a pas été prise sur le vif, mais bien jouée par des danseurs. En 1983, c'est un concours de nudistes en Californie qui permet à l'artiste de prendre de croustillantes photos. Exemple de celle où les fesses d'un homme au premier plan font face à deux femmes qui le regardent en explosant de rire. Elliot Erwitt parle d'une formidable situation, un rêve de photographe. Puis, il s'agit simplement de trouver le bon angle au bon moment. Le cadrage ne montre ni les chaussettes, ni les chaussures de l'homme nu, accessoire qui amuse pourtant beaucoup le photographe. Pour sa série sur les chiens, Elliot Erwitt révèle combien ils sont humains, mais en moins complexes, car ne rechignent pas à être photographiés et surtout ne demandent pas de tirage. Sollicité pour des campagnes publicitaires de chaussures, le photographe signale « Ceux qui voient le mieux les pieds et les chaussures sont les chiens », d'où de nombreux clichés pris dès 1946 au ras du sol. Style insolite repris dans l'affiche de l'exposition, où un close-up sur les bottes d'une femme est entouré par de grandes pattes, peut-être celles d'un dog allemand, et d'un tout petit chien qui, affublé d'un bonnet de laine, est d'une risible et touchante humanité. Les choses sont drôles. Le leitmotiv d'Elliot Erwitt se confirme également dans un instantané pris en 2000. Il immortalise précisément le moment où, s'étant placé sur les genoux d'une personne assise sur les marches d'une entrée d'immeuble new-yorkais, un chien a sa tête en lieu et place de celle de son maître. Comique de situation, certes, mais quel talent d'avoir su le saisir. L'artiste s'est aussi provoqué l'heureux hasard en aboyant lui-même ou à coups de klaxon pour faire sursauter les sujets. Regard amusé aussi quand Elliot Erwitt fait des chiens l'égal des humains. qu'à du chien dressé sur ses pattes arrière pour s'accouder à une balustrade, adoptant ainsi une position similaire à celle des humains spectateurs. Tendresse et intimité sont aussi abordées. Mon premier chat, ma première femme et mon premier enfant, pour citer Elliot Erwitt, révèle une photo prise sur un lit chez lui à New York en 1953. Notez bien les puissants jeux de regard dans un superbe clair-obscur. La photo préférée d'Elliot Erwitt, prise dans le cadre d'une commande pour documenter la mutation industrielle de la ville de Pittsburgh, c'est celle d'un enfant noir, souriant, qui pointe un pistolet sur sa tempe. Photo qui, sans explication, déstabilise le spectateur. Elliot Erwitt aime cette ambiguïté. Sachez que le pistolet n'est qu'un jouet. À la demande d'Elliot Erwitt, les cartels des clichés sont réduits au minimum, à savoir juste la date et le lieu. Munissez-vous donc bien de l'audioguide pour éclairer votre visite. En fin de parcours, une évocation de l'atelier de l'artiste restitue l'ambiance de son studio new-yorkais et propose quelques planches contact, même si Elliot Erwitt souligne bien « Les planches contact doivent rester aussi confidentielles que les paroles échangées chez le psychanalyste ou au confessionnal. » Cet espace atelier explore également Elliot Erwitt, réalisateur de films et éditeur de ses propres livres. Une exposition qui a du chien et qui fait du bien, recommandée. Je rappelle les références. Elliot Erwitt, une rétrospective, programmée jusqu'au 17 mars 2024 à La Sucrière. Plus d'informations sur lasucriere-lyon.com.
Merci Gaëlle. Pour les amateurs de photographie, on vous renvoie à une de tes chroniques sur l'exposition Marc Riboud, sans photographie pour 100 ans, encore à voir jusqu'au 31 décembre au Musée des Confluences. Bonjour Thomas, cette semaine, c'est avec un monstre sacré de la littérature que tu es venu, Jean Giono. Tu nous fais entendre un extrait d'un roman de 1929 intitulé « Un de Beaumugne ». Ce roman est le deuxième de la trilogie de Pan. Il est précédé de « Colline », publié également en 1929, et suivi de « Regain », publié en 1930. Ce court roman raconte, on n'en dit pas plus, on t'écoute.
Je sentais que ça allait venir. Après « Boire », l'homme qui regarde la table et qui soupire, c'est qu'il va parler. Surtout de ces hommes qui sont seuls dans le monde, seuls sur leurs jambes, avec un grand vide autour, tout rond. Enfin, un de notre bande, un de ceux qui se louent dans les fermes, à la moisson, ou à peu près. Cette fois, j'étais de la louée des foulaisons à Marigratte, un gros ménage sur les bords de Durance, une campagne avec des blés à perte de vue, des bois chasseurs, des vignes, tout le tremblement. Un gros ménage, quoi. Ça s'était fait de pur hasard. Nous autres, il n'y a rien de plus bohémien que nous. 10 jours avant, j'étais à Perruis, dans une baraque, seul valet, un peu mon maître, peu de travail, bonne table, et puis la maîtresse, c'était une femme chaude, enfin coq en pâte. Pour un oui, pour un non, je lâche tout et je descends. J'arrive à Marigratte. Ils étaient tous à suer sur les airs. Hé, j'y dis, vous prenez du monde ? Des fois. Des fois, ça peut être ce coup-ci ? Amène-toi. Et me voilà engagé. On avait les dimanches soirs. On allait à Manosque boire le litre à la buvette du Piémont, un bar tout en haut de la ville, dans le faubourg, qu'ils disent. Il y avait de la fesse. Le patron jouait de l'accordéon comme s'il tirait de la pâte à berlingot. Le litre de rouge, 20 sous. Ça nous allait comme un gant. On s'assemblait par sympathie. Ça, chez nous, c'est de règle. On se met à 5 ou 6, au jugé, d'après la tête et en avant. J'en avais visé un, grand, avec des yeux d'eau claire qui débordaient sur ses joues, et sous sa moustache, un rire comme de la neige. Ce qui m'avait attiré, je ne vous cache pas, c'est que dans ses yeux, il y avait quelque chose d'amer. Une ombre, comme le reflet d'une viande qui pourrirait au fond d'une fontaine. Il s'appelait Albin. Il était de la montagne. C'est lui, ce soir-là, que ça travaillait. Il pousse son verre et il souffle un soupir de long comme ça, que dans sa poitrine grosse comme deux miennes, ça a fait un ronflement de vent collinier. Alors, ça va pas, que j'y dis pour l'aider. Faut faire un peu l'accoucheur, des fois. Ça leur fait tant de bien de se soulager. Moi qui suis une vieille noix, j'ai passé par là 20 fois avant eux. En dedans, je me disais « Allez mon gars, vas-y, tu peux pas digérer, rends-le. Il l'a rendu. Je suis ici à me pourrir qu'il parle. Je vais plier mon paquet et je décampe. Laisse tomber que j'y réponds. S'il y a quelqu'un qui t'a malmené ou si l'on t'a dit une raison de trop, faut jamais s'en souvenir avec du vin dans le gésier. C'est un mauvais moment. Les choses, ça passe au courant du jour. Laisse tomber. Une heure, une heure. Un jour, un jour. À mesure que ça défile, ça efface. C'est pas de ça qu'il me fait. Les mauvaises raisons, c'est rien pour moi. Ce que j'ai, c'est du sérieux et ça compte. Ça m'est rentré dedans petit à petit comme un fil d'eau et maintenant, c'est gros et lourd sur mes jambes et ça m'empêche d'être heureux au soleil. Tant vaut que je parte. Après ça, il n'y avait plus besoin de rien dire, vous pensez bien. Il était lancé, ça allait tout seul. Le patron, ce soir-là, pansait son accordéon avec de la colle de pâte et des morceaux de vieux corsage. On avait la paix. Il faisait une belle nuit d'été, étendue toute nue sur les beaux ormes. Le boulevard était vide, un vent léger y jouait avec de la poussière comme un gosse.
Merci beaucoup Thomas de nous faire réentendre Jean Giono, parce que finalement, c'est un auteur qui n'est pas si exposé que ça, si je peux me permettre. Alors bien sûr, on a eu le hussard sur le toit, mais on a l'impression que c'est pas un auteur à la mode.
Je crois qu'il a subi un peu un mauvais sort. C'est un auteur auquel je reviens beaucoup, ça fait partie des quelques-uns. Il a eu un petit peu ce procès en creux. Parce que je dis en creux parce qu'on n'en a pas tant que ça parlé. En même temps, c'est quand même un auteur qu'on a étudié à l'école.
Oui, absolument. Je crois qu'il est toujours au programme.
Regain, Colline, Le Grand Troupeau. Ça parle beaucoup. Les images qui sont évoquées quand on parle de Giono, c'est la relation à la terre.
La ruralité, oui, absolument.
La ruralité dans un contexte quand même d'humanité qui était en train de se décoller de la terre. Je trouve que ce qu'il a écrit est une façon de penser ce sujet-là de façon énorme. Et puis ensuite, il y a eu tout un pan aussi de son écriture sur la relation à la Première Guerre mondiale, qui est une expérience qu'il a beaucoup marquée. Et en fait, ce qui est reproché à Giono, en revanche, c'est son attitude pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est vrai.
Personnellement, j'ai choisi mon camp en l'ayant lu. Je pense que le procès qui lui est fait est détestable et malvenu.
Et hors de propos.
Complètement hors de propos. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, Regain, qui est donc dans la trilogie qui est la...
Absolument, la trilogie de Pan, hein, ce qu'on évoquait tout à l'heure.
Regain a été instrumenté pour illustrer que Giono serait dans la logique du pétinisme de retour à la Terre, mais ça n'a rien à voir avec le propos de Giono. Il y a un fait qui est indépendant de la Seconde Guerre mondiale, qui est que l'humanité s'est coupée progressivement de la fin du 19e, début du 20e, et Giono, c'est son sujet principal. Je recommande aussi la lecture des écrits pacifistes de Giono, c'est des textes qu'il a écrit sur différents supports, sachant que dans les années 30, il a sillonné l'Europe, les auberges de jeunesse, pour porter la parole du pacifisme. Mmh. Parce que, expérience de la Première Guerre mondiale. Quand il a vu arriver la Seconde, il s'est mis en retrait. Alors oui, effectivement, il a eu des articles, enfin des textes qui sont sortis dans des revues parfois sont plus que douteuses. Mm-hmm. Est-ce que ça fait de lui un collabo et un pédiniste convaincu? Personnellement, j'en suis pas convaincu. Il porte des choses bien au-delà de ça et fondamentalement contradictoires avec ça.
Merci beaucoup Thomas pour cette lecture qui nous donne envie de relire Jean Giono. En tout cas, je l'espère.
Il faut.
On termine avec nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. Guillaume, avec quoi es-tu venu cette semaine? Ouh, je vois une belle pochette de
disque. Oui, ben je vais encore avec le disque de l'année. En fait, effectivement, le nouveau disque, mais qui n'est pas forcément nouveau, de Florent Marchais, qui s'intitule D'accord. Maison Alfort. Pourquoi pas forcément nouveau? Parce qu'en fait, c'est une compilation d'une vingtaine de ses anciens titres, enfin mm-hmm. de ses titres, dont quelques titres du dernier album Garden Party. Et donc, là, il les joue un peu à l'os, tout seul au piano. Alors, pas tout à fait, parce qu'il y a son compas sur scène qui joue de la trompette, donc vraiment c'est assez merveilleux. On redécouvre les titres en fait et les paroles qui sont excessivement touchantes.
Et là c'est un vinyle que tu as sous les yeux.
Exceptionnel. Oui, bah oui, je l'ai en vinyle parce que je voulais l'avoir, puisque en plus il y a une pochette particulière.
Tu peux nous la décrire ?
Il est totalement flou.
On vient de parler de photographie avec elle.
Alors oui, ça n'a rien à voir avec Hervide, parce qu'Hervide, c'est plutôt au contraire, la mise au point est très nette.
Ouais, bien
mais
sûr.
Là, la photo est photo, ça y est. Ah bah elle est d'Éric Caravaca, un comédien au départ, et puis ensuite réalisateur qui a fait ce film extraordinaire qui s'appelle Carré 35.
Carré 35.
Dont Florent Marchais a fait la musique. Ben, Florent Marchais, il sera en concert dans notre région le 9 novembre à Francheville, donc à la salle des Iris. Et puis, je crois, le lendemain, le 10 novembre, à la salle au théâtre Jean Carmet de Craponne. Donc voilà, il y a deux dates de Florent Marchais. Vous pouvez aller faire sa garden party, vous allez voir. C'est un moment vraiment ultra sympa, même si les chansons parfois sont graves. Moi, je vous conseille vraiment d'acheter Maison Alfort de Florent Marchais.
Merci beaucoup, Guillaume. Et pour toi, Gaëlle, avec quoi es-tu venue cette semaine ?
Alors, connaissez-vous la nuit du cirque ? Depuis 2019, cette manifestation célèbre le cirque en France et à l'international. Toujours programmée en automne, elle se déroule cette année les 17, 18 et 19 novembre. Mon Gédéon de la semaine honore ainsi l'univers circassien avec Oraison de la compagnie Rasposo, spectacle programmé du 14 au 18 novembre au Sub. Marie Moliens assure la direction artistique de la compagnie Rasposo depuis 2012, compagnie qu'elle connaît bien car ses parents l'ont créée en 1987. À l'âge de 4 ans, Marie Moliens était déjà sur scène. Le spectacle Oraison est le dernier volet de sa trilogie Or. ORS. Après Morsure en 2013 et La Dévorée en 2016, Marie Moliens offre avec Oraison, déjà présenté au Festival d'Avignon 2021, un spectacle qui mêle cirque contemporain, danse et théâtre. Portée équilibriste, main à main et lancée de couteau sont ponctués par la présence de fil de feriste, voltigeur et clown. Oraison est une métaphore sur l'image du clown blanc comme sauveur dérisoire du chaos contemporain. Car Oraison est une forme de prière, à comprendre, selon Marie Moliens, comme une invocation à éveiller une conscience collective. Le spectacle explore les méandres de l'âme humaine. Entre émotion et réflexion, il nous questionne. Faut-il combattre à tout prix ou se laisser atteindre ? Interrogation reprise par les corps qui évoluent entre grâce et vulnérabilité. Oraison est programmé dans le cadre de Sub Circus, un événement que les Sub consacrent aux arts de la scène en résonance avec la manifestation de la nuit du cirque. Je rappelle les références. Oraison de la compagnie Rasposo du 14 au 18 novembre au Sub. Plus d'informations sur les-sub.com.
Merci. Actualité de la bande dessinée, vous savez que je l'aime infiniment. La dessinatrice Zenia Abirached offre un nouveau souffle graphique à un roman que j'ai adoré, comme beaucoup de gens, Prophète de Khalil Gibran. Ce roman graphique en noir et blanc illustre avec subtilité la pensée philosophique de l'auteur. Pour les 100 ans de la parution de ce best-seller mondial, les éditions Segers publient la première version du texte intégral entièrement dessiné par Zeina Abirached. Également enfant du Liban et de l'exil, l'auteur du très remarqué Piano oriental donne au chef-d'œuvre de Gibran une nouvelle scansion. Son trait noir, simple et rond met du vent dans les voiles. Un nouveau voyage spirituel peut commencer à découvrir de toute urgence. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, restez curieux.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaëlle Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.